do. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Équipe technique ce soir au Bel Air, Pierre Monteil, Célia Dufour, Tarbou Klifa. Et puis au 158, n'oublions pas Pierrick Monsigny, quelques étages plus haut dans cette maison de la radio, la réalisation. Et bien sûr, signé Daniel Finot. Et autour de cette table ce soir, Corinne Rondeau, Muriel Joudet, Thierry Chaise pour parler ensemble de Wonder Wheel de Woody Allen, de Pentagon Papers de Steven Spielberg et de Gaspard va au mariage d'Anthony Corbier. Boris Pino est également là à mes côtés pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter. Et puis bien sûr, il y aura des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour une visite guidée de l'exposition Beate et Serge Klarsfeld des combats de la mémoire. Ce sera une visite prévue jeudi 8 février à 19h au Mémorial de la Shoah à Paris. Nous ouvrons cette dispute consacrée ce soir au cinéma avec le nouveau film de Woody Allen qui a autant occupé ces derniers temps les pages faits divers que celles du cinéma, tant et si bien qu'à 82 ans on peut se demander si Wonder Wheel ne sera pas son dernier film. Alors avant de le savoir, dans quelques mois, à l'évidence, on va s'intéresser à ce dernier né.
Coney Island, 1950s. The beach, the boardwalk. I work here on base 7. Enter Carolina.
Excuse me, do you know if Jenny's here?
I'm Jenny.
I'm Humpty's daughter. Here's wife.
Is he gonna be surprised?
I'm marked. They're gonna kill me.
That's what you get when you marry a gangster.
I gotta have a drink.
No, Humpty, you've been good.
Damn it!
Miss, you can't be out here right now. We're expecting lightning storms.
When you're married to a man who got rich putting people's feet in cement, you probably never had to do a dish.
Your wife don't like to go fishing anymore, Humpty.
She made like she liked it. To get me on the hook, I was the fish.
You know she's a marked woman.
Shouldn't she move on?
I know where all the bodies are buried.
Did he kiss you?
Why are you getting so heated?
I'm gonna find her.
Head is pounding.
Everything's coming apart.
You look a little crazy to me.
When it comes to love, we often turn out to be our own worst enemy.
I know what it is you did.
Oh, don't you think you're being a little melodramatic?
La roue des merveilles. Wonder Wheel, non? Ça vous va pas comme titre français, Corinne Rondeau? Vous qui êtes anglophone, confirmez.
Ça va pas puisque je
suis. Bon, Wonder Wheel. Alors, du coup, on va commencer avec Muriel Joudet qui va peut-être planter le décor de ce nouveau Woody Allen dont je n'ai rien dit en fait pour l'instant.
Oui, mais l'histoire est très rudimentaire. En tout cas, elle prend place à Coney Island dans les années 50. Et pour moi, c'est plutôt. Enfin, après, pour raconter l'histoire, c'est l'histoire d'une sorte de ménagère qui est à la fois aussi je sais plus ce qu'elle fait d'ailleurs son métier.
Elle
est serveuse, voilà. Soudain débarque. Je l'ai vu tout à l'heure et je m'en souviens
d'accord.
plus.
Vous n'avez pas de mémoire à court terme en fait.
Non, oui, exactement. Mais soudain débarque sa belle-fille, Juno Temple, et donc Kate Winslet, qui joue donc l'héroïne principale, tombe amoureuse du maître nageur, donc joué par Justin Timberlake, et va vivre une sorte d'idylle d'adultère avec ce jeune garçon. Et ce jeune garçon va notamment rencontrer donc sa belle-fille et va vivre une sorte de seconde liaison avec la belle-fille de Kate Winslet.
Bon, ça va. Finalement, oui, ça vous va. En souvenez assez bien depuis tout à l'heure.
Voilà, c'est je peux bien. Pas raconter plus. Non. Et donc pour moi, enfin après ça fait quelques films que pour moi Woody Allen est un peu en pilote automatique, et j'ai eu le sentiment en voyant le film qu'on était moins dans un film de Woody Allen que dans un film de Vittorio Storaro, qui est donc le chef opérateur du film, un grand chef opérateur connu notamment pour avoir fait la lumière de Apocalypse Now et de Coup de cœur, qui est votre film préféré, Arnaud Laporte, je l'ai retenu. Et donc on connaît Storaro.
Cherchez à faire oublier un incident qui s'est produit avant l'émission. Oui. Je le dis aux auditrices et auditeurs.
Enfin, je me rattrape, je fais la faillotte. Et on connaît Storaro pour cette lumière extrêmement colorée qui est ici assez éblouissante. Donc on passe du rouge au bleu, la lumière est extrêmement changeante alors qu'on est dans une histoire a priori très réaliste. Mais voilà, la lumière s'occupe d'éblouir tout ça et elle fait le film pour moi. Elle fait totalement le film, même si à mon sens Storaro fait du Storaro. C'est-à-dire que dès les premières images, je me dis, ah mince, on est dans une carte postale. On est à Coney Island dans les années 50. La lumière a quelque chose d'un peu sirupeux. On est vraiment dans quelque chose de très gluant, comme si une lumière, comme si un sirop de lumière dégoulinait sur l'image. Et c'est à l'image de ce qu'est devenu pour moi le cinéma de Woody Allen, c'est-à-dire une carte postale de son propre cinéma. Donc Storaro fait du Storaro, Woody Allen fait son Woody Allen. Et ce qui m'a assez énervé, c'est de voir avec quelle nonchalance Woody Allen faisait ses films aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus que les signes extérieurs de son cinéma. C'est-à-dire les scènes de ménage, la petite voix off, la petite musique jazzy qu'on entend tout le temps et qui moi m'insupporte aujourd'hui. L'espèce de noirceur tragique et les discussions pseudo-philosophiques. Bref, il y a tous les signes extérieurs qui nous montrent qu'on est dans un film de Woody Allen, mais pour moi, il n'y a plus rien. Pour moi, on a vraiment... Et le fait que le film se passe à Coney Island est pour moi très parlant. C'est-à-dire qu'on est presque dans une sorte... Comme si le film avait conscientisé le fait qu'on n'était plus que dans une sorte de visite touristique du cinéma de Woody Allen. Et donc pour moi, il n'y a absolument plus rien, mais ça fait depuis à peu près 5 ans que c'est le cas et que Woody Allen n'est plus un cinéaste et s'occupe juste de livrer chaque année un film.
Alors c'est une question que je pensais poser d'ailleurs plus tard, mais quand vous dites 5 ans, pour vous, les derniers bons films de Woody Allen, ça remonte à...
Pour moi, le dernier bon, c'est Whatever Works. Donc, c'est encore, je crois que c'est 10 ans.
Ouais, d'accord. Thierry Chaise, est-ce qu'on a envie de regarder une carte postale pendant 1h41 ou est-ce que, ce qui est d'ailleurs une durée un peu longue pour Woody Allen, qui est plutôt sur le 1h15, 1h20. Votre sentiment sur Wonder Wheel?
Alors, moi, je les ai préférés au dernier, sans doute parce que Storaro a pris un peu la main. Il était déjà dans le précédent, mais le précédent, il ne faisait pas montre d'autant de choses. Alors peut-être que là, d'un seul coup, il s'est senti libéré, il en a mis trop. C'est un peu, c'est Monsieur Plus. Mais au moins, je trouve qu'il se passe quelque chose visuellement, alors que ça fait plusieurs films, y compris lorsqu'il travaille avec Darius Conji, dont on connaît quand même les... On était impossible de dire, en regardant Woody Allen, c'était Darius Conji qui faisait la lumière. Moi, ce qui reste du cinéma de Woody Allen, malgré tout, même, c'est quand même la direction d'acteur. Et moi, j'ai vécu le film à travers Kate Winslet, que je trouve extrêmement juste, extrêmement précise, extrêmement touchante, qui vous serre le cœur. Alors oui, tout autour, on a l'impression d'avoir déjà tout vu. On est Coney Island, on y était au moment de Radio Days, on a vu tous ces éléments-là, et c'est vrai, on est un peu au musée Woody Allen, et on revisite. Avec cette impression, en effet, que ça pourrait être son dernier film, et on pense quasiment à ça en le voyant, on se dit peut-être que ça peut en effet se terminer là, parce qu'il y a tous les éléments pris les uns avec les autres, avec juste un petit plus. Moi, j'ai bien aimé cet enfant pyromane qui parsème le film et qui semble dire justement par moments, c'est presque Woody Allen, presque enfant, qui viendrait lui-même se dire hey, tu es en train de bégayer, tu es en train de faire quelque chose, réveille-toi mon gars, comme une voix intérieure en gros. Et c'est, voilà, c'est par Kate Winslet et par le gamin que j'ai vécu ce film. Mais moi, j'ai quand même, grâce à Kate Winslet, j'ai préféré celui-là aux deux ou trois précédents où la mollesse totale s'était imposée.
Mais enfin, c'est peut-être la dernière fois qu'il a Kate Winslet ou une actrice de cet acabit.
Kate Winslet, elle, soutient, défend, ça fait partie d'une des rares qui n'a ni rendu l'argent, ni dit j'aurais pas dû tourner, qui continue à le défendre.
J'ai l'impression qu'elle regrette d'avoir tourné avec Woody Allen, ce qui est pour moi un acte d'ingratitude totale.
Il y en a qui ont, comme Rebecca Hall, qui est dans les deux films et qui regrette, c'est un peu bizarre. Enfin.
Corinne Rondeau.
Je ne sais pas si elle l'a nié. Je ne sais pas ce qu'elle a nié.
Non, on va parler du film, Wonder Wheel.
Ouais. Non, moi c'est vrai que Kate Winslet prend vraiment le film, elle le porte, parce que je trouve que bon, le film a un parti pris qui est quelque chose de très théâtral, avec quelque chose de très mineur, dans la mesure où même le mot est prononcé dès le début, qui est le mélodrame. Et donc un mélodrame, c'est quelque chose de mineur, je crois qu'effectivement, juste ce qui peut soulever le... Enfin, en l'occurrence.
Non, parce que je tiquais un peu cette phrase, le mélodrame est un genre mineur. Non.
Non, mais dans le cadre du genre en théâtre, c'est pas la tragédie ni la comédie telle qu'on le met dans les genres. Dans le mélodrame est un genre mineur, mais en même temps, un genre mineur, ça veut pas dire qu'il y a de très bonnes qualités de ce genre-là. Donc c'est vrai que le film a cette, je dirais qu'il a, il a la qualité de ses défauts, quoi. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression d'avoir un coquillage à l'oreille. C'est-à-dire qu'on entend le bruit du ressac, tout revient, bah, c'est aussi une roue. Et finalement, le miracle, c'est de se dire, il y a toujours une crise de l'intime chez Woody Allen. Donc cette crise de l'intime, elle est portée par effectivement un personnage, on l'a dit. Elle est portée, elle est pas du tout portée par Justin Timberlake, que j'ai détesté absolument. Je sais pas ce qu'il vient faire dans ce film. En même temps, voilà, il y a quelque chose d'étrange. Il y a à la fois cette étrangeté du ressac, mais en même temps, on peut y reconnaître un Woody Allen vieillissant. Et en même temps, ça m'a fait penser aussi à un autre objet qu'un coquillage. Ça m'a fait penser à Bruit secret. Vous savez, c'est une pièce de Duchamp. C'est une pelote. C'est enfermé par deux plaques. Et à l'intérieur, il y a un objet, mais on ne sait pas ce que c'est. Et ce film, c'est comme s'il y avait un secret, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Alors peut-être dans le pyromane, l'enfant pyromane, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est là, en fait. Et il a quelque chose d'une interrogation sur la violence, voire la destruction, voire la mort, parce qu'en fait, je trouve que ce film, c'est comme si c'était à l'ombre d'un meurtre. Parce que dans un film banal aujourd'hui, puisqu'on l'a, on l'a pas dit exactement, donc Ginny, Kate Winslet, vit avec un monsieur qui fait tourner un manège, qui s'appelle Humpty, qui s'est fâché avec sa fille, mais sa fille va revenir, parce qu'elle s'est embrouillée avec son mari, qui est un mafieux. Et en fait, on va chercher à récupérer cette fille. Donc, elle se cache chez lui parce qu'elle sait qu'il ne va pas venir puisqu'il est fâché avec son père. Or, évidemment, ça va jusque-là. Et quand vous voyez deux mafieux arriver, vous dites, normalement, dans un film normal, qu'on a l'habitude de voir, ça va saigner. Et ce film évite le meurtre. Il évite, justement, une sorte de moralisation. Et en même temps, je trouve que ce film a des pesanteurs comme ça. Et assez fréquente, et ce que j'ai trouvé, alors vous trouvez que c'est un défaut, c'est lumière, moi je sais que ce monologue de Ken Quislet, la nuit, sur le bord de plage, avec effectivement les lumières de Coney Island sur son visage, j'ai oublié ce qu'elle disait, et j'ai trouvé ça d'une grande, pas sensualité, mais un sans...
Le mot manque.
Oui, non, mais ça cherche à produire des humeurs, de la variation, parce que les personnages sont toujours en train de chercher à être ailleurs que là où ils sont. Ce sont des personnages en voie de rédemption, par exemple. Ce sont aussi des personnages qui se disent, bon, ben, comment je peux aider là où j'ai pas aidé. Donc cette recherche à rédemption, ben, elle échoue, évidemment. Mais en même temps, je trouvais que ce grand manège dans lequel ils étaient, c'était aussi le manège de leur vie. Qui est en fait quoi ? C'est un monde d'illusion absolue, puisque le film repose sur l'illusion, comme Annie Hall en 77, toujours à Coney Island, qui était sur le principe de voilà où se trouve le fantasme de la réalité. Alors, 77-2018, ouais, on n'a pas le même Woody Allen, bien sûr. Moi, ça fait des années que je n'ai pas vu un Woody Allen. Et donc, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, qui a fait ce film, en fait ? Voilà.
Ah oui, mais ça, c'est la question qu'on se pose tous et toutes, là, visiblement, ce soir. Qui a fait ce film ? Moi, je trouve qu'il manque de... Pour le coup, il manquerait de crime. Est-ce que c'était une frustration ? Parce que j'étais pas sûr tout à l'heure, quand vous avez dit, quand les mafieux arrivent, on attend qu'eux. On pouvait espérer qu'eux, parce que sur les crimes, c'est plutôt quelque chose qu'il a plutôt bien réussi, Woody Allen, dans la seconde partie de sa carrière, ou la troisième, on peut la découper en pas mal de tranches. Et que là, cet élément narratif qu'il maîtrise suffisamment bien d'habitude, avec cette distance, cette façon d'affronter une sorte de réalité très brute, mais en même temps avec un léger décalage. Il l'a fait dans de nombreux films très bien. Bon, le sommet, c'est Crimes et délits, mais ça, c'est pour moi sans doute les trois meilleurs Woody Allen sur les 153 films qu'il a réalisés. Mais moi, il m'a manqué cette dimension-là, Muriel Joudet.
Oui, alors je pense que c'est lié au fait que l'héroïne soit une femme, c'est-à-dire que les crimes chez Woody Allen sont toujours liés à des personnages masculins. C'est toujours eux qui tuent, parce que, pour dire un truc assez violent, Woody Allen a quelque chose d'assez misogyne, c'est-à-dire que pour lui,
On a dit plus violent sur lui.
Oui, non, bien sûr, évidemment, ouais, c'est assez soft. Mais les hommes sont porteurs d'une morale, en tout cas, se posent la question du bien et du mal, et jamais les femmes. Et là, il y a quelque chose. Les femmes sont plutôt une sorte de créatures hystériques. Et là, sous couvert d'une sorte de portrait de femme oscarisable, en fait, on a une hystérique. Et même si le portrait est assez beau, très vite, ça devient comme Kate Blanchett dans Blue Jasmine, tout le temps la même chose, comme Diane Keaton, comme Mia Farrow, Kate Winslet pète un câble, elle devient complètement folle. Et moi, ça commence à m'énerver, ce truc-là, de cette misogynie latente dans le cinéma de Woody Allen. Et c'est pour ça qu'à mon avis, comme il n'est pas question de morale chez les femmes, il n'y a pas de crime dans les films dans ce film précis.
Pas d'accord, Corinne Rondeau?
Non, je la trouve pas du tout hystérique. Je crois que c'est la moins hystérique de
progressivement, j'ai l'impression.
Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il est, il est trop près de ses personnages parce que c'est trop théâtral. D'ailleurs, c'est très symptomatique. Au début, il est très près de ses acteurs. J'ai pas eu la sensation d'avoir un souvenir d'une caméra si près des acteurs. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un corps qui gêne la caméra, littéralement. Et en fait, ils sont les uns après les autres à jouer. Et ça, il n'y a pas la dynamique, je trouve, des vieux Woody Allen que je connaissais. Enfin,
non, plutôt l'impression d'un théâtre de figurines.
Oui, oui c'est ça, plutôt. Après, bon, il vient les agrémenter de quelques références à Tchekhov ici qui sont inutiles, vraiment. Mais non, moi, je voilà. Et puis, s'il était misanthrope à cause de cette hystérie, je crois que.
Misanthrope ou misogyne
misogyne, pardon. Il est lui-même misogyne à son égard, parce qu'il a été le plus hystérique de ses acteurs, je crois.
Oui, bien sûr.
Thierry Chaise.
Et d'ailleurs, le fait de donner le pouvoir et la parole aux femmes empêche une figure qui, moi, m'est insupportable, c'est l'acteur qui imite Woody Allen.
Oui. On en a eu une collection terrible.
Une collection due à l'acteur, mais due aussi à Woody Allen, puisque Woody Allen dirige forcément l'acteur pour qu'il lui ressemble.
De toute façon, les Woody Allen sont moins bons depuis qu'il joue plus dedans.
Exactement. Hein. Et au moins,
une rupture. Là.
Voilà. Et donc là, il n'y a pas un personnage qui cherche l'imitation. Il n'y a pas non plus. Moi, je trouvais que de plus en plus, tous ces moments comiques, justement, se délitaient. Là, ça avait beaucoup plus vieilli et que finalement, dans le mélo.
Il a essayé des bons, hein, mais ça n'a jamais pris.
Mais dans le mélo, je trouve que finalement, toute cette tristesse, ça lui va beaucoup mieux que l'humour d'un seul coup. On se dit, Oulala, mais c'était bien il y a longtemps, là ça marche plus du tout. Et c'est pour ça que moi c'est un de mes préférés depuis un petit moment. C'est grâce à ça, je trouve que tous ces tics-là ont au moins été enlevés et que ça me fait du bien.
Corinne Rondeau ?
Non mais je pense à une... elle dit plusieurs... Kate Winslet dit plusieurs fois « Bon ben voilà, alors mon rôle c'est d'être serveuse. Voilà, mon rôle c'est d'être serveuse. » Et on se dit si finalement le rôle de sa vie c'est d'être serveuse, il n'y a plus rien dans... Enfin, il n'y a plus rien dans le jeu, dans l'acteur, puisqu'elle est elle-même une actrice ratée et qui rêve encore d'être une actrice. Et je pense à ça parce qu'on parle de Woody Allen, acteur lui-même. Il y a peut-être quelque chose d'une dévitalisation à cet endroit-là qui se joue. C'est-à-dire que peut-être Woody Allen, il ne lui reste plus qu'à regarder un cinéma dans lequel il n'est même plus lui-même aussi investi qu'on l'a aimé d'une certaine manière.
Morel Joudet, pour terminer, peut-être.
Oui, non, mais pour rebondir sur l'idée que beaucoup d'acteurs essayent d'imiter Woody Allen, j'adore répéter cette phrase de Mathieu Amalric qui dit qu'un acteur essaye toujours d'imiter le réalisateur pour qui il joue. Et là, dans le cinéma de Woody Allen, c'est vrai qu'il y a une sorte de Woody Allenisation de tous les acteurs qui est là pour le coup qui touche au maniérisme, hein, qui commence à trouver, enfin qui est plus intéressante que ça. Alors que voilà, Diane Keaton, Mia Farrow ou tous ces grands acteurs des années 70, 80, 90, qui pour moi sont des grandes périodes de Woody Allen, il y avait quelque chose d'une sorte de... Voilà, c'était le chef d'orchestre, il donnait le ton. Et là, comme il est absent de son film, à mon sens, il y a une sorte de mime pas très intéressant de la part de tous les acteurs.
Et du coup, c'est pourquoi c'est assez logique, c'est QFD, les seuls personnages qui restent sont ces personnages de femmes.
Mmh. Oui.
Ouais. Et d'enfants.
Quelle démonstration.
Et d'enfants pyromanes.
Wonder Wheel de Woody Allen sur les écrans et à suivre dans la dispute Steven Spielberg et Anthony Cordier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce soir au cinéma, au public du Bar Le Bel Air, à la Maison de la Radio, comme tous les vendredis soirs, avec donc cette fois-ci le nouveau film de Steven Spielberg qui continue à tourner de plus en plus comme Woody Allen à un rythme très très soutenu. Je ne sais pas combien de films il sort par an, Spielberg. Alors, dans des registres assez variés, cette fois c'est dans le inspiré d'une histoire vraie, Pentagon Papers, avec Meryl Streep et Tom Hanks, soit un habitué du cinéaste et puis une actrice devenue bien trop rare au fil des années.
So, can I ask you a hypothetical question?
Oh, dear, I don't like hypothetical questions.
Well, I don't think you're going to like a real one either.
Do you have the papers?
Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon.
The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
The way they lied, those days have to be over.
Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper.
That she doesn't have the resolve to make the tough choices.
Thank you, Arthur, for your frankness.
Let's do our jobs. Find those pages.
You're talking about exposing years of government secrets.
Is that legal?
What is it you think we do here for a living, kid?
Ben, I might have something.
It must be precious cargo.
It's just government secrets.
The New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War.
If you'd publish, we'll be at the Supreme Court next week.
Meaning?
Well, we could all go to prison.
To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave.
If the government wins, the Washington Post will cease to exist.
If we don't hold them accountable, who will?
You can't hold them accountable if we don't have a newspaper.
Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it.
I'm asking your advice, Bob, not your permission.
She can't do this. The legacy of the company is at stake.
What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose.
What are you going to do, Mrs. Graham?
Les papiers du Patagone. Je vais traduire tous les titres maintenant. Ça va être mon nouveau truc. Ça parle beaucoup. Et moi, j'ai pas encore vu ce film. J'ai demandé son avis. Il fallait que je choisisse aujourd'hui entre deux. J'ai demandé à Corinne Rondeau ce matin, qui m'a dit va voir Gaspard au mariage. Non, c'est pas vrai. En plus, vous m'avez donné des indications très précieuses et en mon âme et conscience, j'ai choisi Anthony Cordier plutôt que Steven Spielberg. Ai-je eu tort, Thierry Chaise?
Mais moi, j'aime bien les deux, donc bon. Voilà.
Pentagon Papers. Pentagon Papers, est-ce qu'il faut que j'y aille ce week-end?
Moi, je pense que ça vaut le coup. Alors, c'est vrai qu'il tourne beaucoup. Il avait terminé de tourner son film qui va sortir dans un mois, qui s'appelle Ready Player One. Voilà, il avait un an devant lui de post-production, donc il s'est dit, pourquoi ne pas faire un film? Et donc, il s'est attaqué à Pentagon Papers, donc cette histoire vraie, en effet, de ces documents qui dénonçait l'attitude d'énormément d'administrations américaines. On va de Kennedy à Nixon, au moment où Nixon est encore au pouvoir, et une affaire qui est sortie donc par le Washington Post, avec à la tête deux personnages campés par Meryl Streep et Tom Hanks. Ça fait partie en effet des films dits sérieux de Steven Spielberg, qui a plusieurs cordes à son arc, qui sort du Bon Gros Géant, qui était là extrêmement raté, un film pour enfants. Donc on peut dire là aussi qu'on est à l'extrême, qu'on rebondit. Mais ça prouve aussi que chez Spielberg, il y a quand même un goût de cinéma qui se maintient intact.
Ah, c'est sûr.
Depuis les
depuis
duels, c'est quand même voilà, c'est-à-dire que là, je ne sens aucune dévitalisation et il y a forcément une envie de raconter ce film-là à une époque où le journalisme est plutôt mis en question par l'administration Trump, une question où l'on parle beaucoup de la position des femmes aux États-Unis, et forcément le personnage de Meryl Streep à l'époque résonne jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est, je trouve, sa mise en scène, c'est-à-dire qu'on a vu il y a 2 ou 3 ans un film qui traitait des prêtres de Boston, la pédophilie, et qui avait eu un Oscar, mais celui-là, il aurait dû en avoir 40 à côté, parce que j'ai l'impression que quand les journalistes fouillent, on ouvre un carton, ça devient du cinéma chez Spielberg, alors que chez d'autres, on ouvre simplement un carton, tout bêtement. J'aime toujours, moi, le choix des acteurs. Je trouve que Tom Hanks, c'est aussi une certaine tradition américaine, des James Stewart, il y a des accents de Capra, d'ailleurs, dans le film, grâce à ça. Il y a un film qui reste, qui ne cherche pas à être autre chose. On a entendu une bande-annonce avec Wood qui est très agité. Le film ne l'est pas. Le film a un certain classicisme et une fois encore frappe justement les esprits. Et c'est ça que je regrette, c'est mon bémol, c'est que on sait pourquoi il l'a fait, on voit pourquoi il l'a fait. Et à la fin, il faut quand même des dernières scènes qui viennent expliquer quasiment.
Mais c'est pour le public américain, ça, Thierry Chaise.
Voilà. Non, mais c'est.
C'est pas une blague.
Mais c'est vrai. Mais c'est vrai pour que ça fasse un peu plus d'entrée, tout ça. Et je trouve que d'un seul coup, on se dit oui, on a compris. C'est Steven Spielberg, on sait qui c'est. Tom Hanks vient, Meryl Streep.
Il n'a qu'à faire une version européenne.
Mais il aurait dû. Donc voilà, c'est un film que j'ai aimé, sauf dans son emballement final.
Partez 10 minutes avant la fin de la séance. Corinne Rondeau, Pentagon Papers.
Oui, il a 71 ans, alors que Woody en a
82. 82.
Bon. Non, la mise en scène, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, même si ça parle beaucoup. Bon, on serait quand même gêné que Spielberg ne sache pas faire la mise en scène, quand même, ça serait gênant. C'est vrai que pour moi, c'est un bon, très bon film de divertissement, très superficiel sur la manière dont c'est quand même traité. En même temps, c'est un film pour un public américain, et ils aiment ce côté empirique. Je trouve que le risque qu'il prend, et que je trouve bien assumé, c'est une volonté de faire un cinéma comme la fin du grand Hollywood et du début du nouvel Hollywood, à savoir qu'on nous montrait des films sans rien nous expliquer, mais on comprenait tout. Et ça, c'est assez formidable. Et il a choisi d'ailleurs non seulement la couleur des images qui rappelle les années 70, mais en plus, il a choisi un montage sur une action genre « Allez, on va tirer le journal !» Les machines, le machin, les camions les uns après les autres qui sortent du bâtiment, hein, puisque c'est l'époque où on a les étages, les journalistes, l'imprimerie en dessous. Enfin, il y a une espèce d'entité organique qui se produit. Et là, il est très juste. Il a tout un rapport et une nostalgie, encore assez pétillant, je dirais, sur tous les rapports que les individus avaient entre eux, notamment les téléphones. Pour avoir un téléphone, on n'a plus le portable. Alors le type va chercher la bonne personne pour avoir ses fameux papiers. Et donc, il va tomber ses pièces de monnaie avec son téléphone qui tient, qui est accroché à un mur où les voitures passent. Donc, il y a cette manière de nous rappeler quelque chose du monde. Avant, voilà, c'était mieux. Après, je trouve que la gestion... Pardon, ce mot est atroce, gestion. Cette manière de montrer le journalisme m'insupporte absolument. D'abord, c'est vrai que... Il a une manière de nous dire, dans ce film, c'est martelé en permanence, les journalistes doivent absolument imprimer la vérité. C'est un film hanté par la vérité, ça ne sera pas le premier film de Spielberg, mais comme si la vérité s'était imprimée. Voilà.
Et moi, imprimable.
Et donc là, il y a un problème, parce que, alors il le raconte, bien sûr, puisque c'est Robert
Robert,
qui est secrétaire de la défense, qui va sortir ses 47 dossiers de je ne sais plus combien de milliers de pages, qui va les donner à des gens de la société civile. Donc Marshall McLuhan par exemple, et notamment le Daniel Ellsberg, qui va le donner à un type du Washington Post, après que le New York Times ait été interdit de produire à nouveau dans la presse les documents. Et une fois qu'on a ça comme info, donc on commence par la guerre du Vietnam, bon, il sait la filmer, ensuite on va sortir les documents, et le reste du film, c'est « faut imprimer les papiers ». On a envie de dire au journalisme, c'est peut-être pas qu'imprimer des papiers. Et donc, effectivement, comme on est face à un public américain qui veut avoir une efficacité du message et se dire la vérité, c'est justement de dénoncer la corruption ou ce qu'on nous cache dans une époque où, effectivement, puisque c'est après ça va ouvrir la porte au Watergate, on a envie de dire, oh, mon Dieu, mais si c'est ça, si les gens n'attendent que ça du journalisme, oh, voilà, effectivement, quand on a élu Trump, on ne peut pas faire autre chose.
Muriel Jouté sur Pentagon Papers, c'est un film de Steven Spielberg.
Oui, non, je peux comprendre qu'on puisse reprocher au film quelque chose qui serait de l'ordre de son idéalisme ou quelque chose d'un peu illuminé. Et en même temps, on est dans le genre très particulier du film journalistique, qui est un genre en soi. Et je pense que ça fait une dizaine d'années que Spielberg se promène dans l'histoire du cinéma américain et règle ses comptes avec Samuel Fuller, John Ford et Frank Capra surtout. Et là, on a les trois couplets. On a à la fois Violence à Parkrow, on a aussi tout le cinéma de Frank Capra. Et c'est un genre très particulier, le genre du film journalistique, parce qu'il est, dans le cinéma classique, traité sur son versant populiste. C'est-à-dire qu'on essaye d'incarner des idées, de donner corps à des idées qui sont la démocratie, le peuple, la liberté de la presse, le bien et le mal aussi. Et aussi, qu'est-ce qu'une bonne démocratie, qu'est-ce qu'un bon journal. Donc c'est vrai que toutes ces notions-là, Spielberg les traite comme les traiterait un Frank Capra dans les années 30-40. Et on sent une euphorie totale à filmer la presse, à filmer le fonctionnement de la presse. Moi, je sens vraiment que la caméra de Spielberg s'excite au contact de l'affairement d'une salle de rédaction, d'un petit stagiaire à qui on missionne une tâche et qui doit se dépêcher. Bref, on a une sorte d'affairement permanent. Et la mise en scène de Spielberg se met au diapason de cet affairement. Et je trouve que c'est d'une virtuosité absolue. C'est vraiment un des plus beaux films que j'ai vu depuis peut-être un an. C'est un truc de...
Ah, carrément.
Ah ouais, c'est, ça m'a ému, mais à un point... Enfin, c'était assez...
Vous êtes journaliste, Muriel?
Non, je suis cinéphile. Et non, mais... Et surtout, ce qui est assez beau, c'est qu'il y a ce mouvement collectif. Il y a qu'est-ce que la presse, qu'est-ce que la démocratie. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on a oublié de parler de Catherine Graham, jouée par Meryl Streep dans le film. Et ce que nous dit Spielberg, c'est que cette jeune femme... cette dame, puisqu'elle n'a pas, elle n'est pas si jeune que ça dans le film, qui est donc directrice du Washington Post et qui n'a pas confiance en elle, que tous les hommes regardent d'un œil, bon voilà, on sent qu'elle est pas, qu'elle est incompétente, doit prendre son destin en main, sa vie de femme en main, en même temps qu'elle doit prendre en main la vie du journal. Et il y a un basculement dans le film qui consiste à confondre le mouvement du journal avec le mouvement de ce destin féminin. Et pour moi, c'est d'une puissance émotionnelle assez inouïe. Et ce qui est assez beau, c'est de voir ce cinéaste de 71 ans, qui maîtrise totalement ses pouvoirs de cinéaste, qui est totalement virtuose, qui est dans le contrôle total, mais ce contrôle ne joue jamais contre l'émotion. Elle est tout le temps, elle provoque toujours l'émotion. Et donc ce mélange de maîtrise et d'émotion dans le film, pour moi, font que c'est un très grand portrait de femme, beaucoup plus grand que ce que le film de Woody Allen, et en même temps un très grand film sur la démocratie américaine, et un très grand film classique américain.
Pas ému, Corinne Rondeau ?
Comment ? Non, moi, pas ému. Aucunement. Je trouve qu'il y a des très beaux moments.
Mais Meryl Streep, qu'on aime à la folie.
Alors, je trouve
comment
que,
aller
non, mais vous mettez Tom Hanks.
Moi, j'aime pas du tout Tom Hanks. Enfin,
non, mais moi non plus, j'ai pas une faveur.
Mais oui, bah, comme ça.
Voilà. Meryl Streep, moi, je suis une grande fan. J'y vais à.
Oui, oui.
Même avec les lunettes de soleil.
C'est pour ça que j'irai, en fait.
Mais. Je trouve qu'il y a du. Ça surjoue quand même beaucoup. Justement pour. Vraiment marqué la bascule, quoi. Cette femme qui va être libre, on a tout là, vraiment. On parle de démocratie, bon, c'est des gros mots quand même. Faudrait qu'on soit un peu plus modeste avec eux pour savoir de quoi vraiment ils retournent. Je trouve que c'est vraiment filmé, comme vous le dites, dans les années 30, quoi. Voilà, c'est un cinéma qui est montré comme les années 30, même si. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu lourdasse, quoi. Voilà. Et il y a pas. Non, mais par exemple, ils sortent du tribunal. Meryl Streep va sortir. Les types parlent. Les hommes parlent aux hommes. Voilà. Les journalistes parlent aux types des journaux, les patrons. Et elle va sortir comme ça. Elle va les regarder avec une certaine bienveillance et modestie en même temps. Elle sait ce qui se joue. Et elle est libre et elle va passer et vous avez une rangée de femmes qui lui font des sourires merveilleux. Bon, voilà, si c'est un Capra, ça me gêne pas. Mais
c'est là, c'est un Capra, hein. Ouais. C'est tout aussi, ouais, c'est noir et blanc, non, c'est le bien et le mal.
Oui, non, mais là, c'est lourd.
Mais le monde a changé quand même. Il y a eu quelques films entre Capra et Spielberg, ça vous a pas échappé.
Voilà, oui, non, mais c'est la même logique. C'est-à-dire, il y a le bien et le mal, c'est l'obscurité et la lumière.
Est-ce qu'elle fonctionne en 2018, cette logique-là?
Moi, je trouve qu'on est dans une certaine tradition du cinéma américain. Moi, ça me dérange pas parce que c'est des conventions, donc j'accepte ces conventions. Moi, je suis. Après,
il n'y a pas. Enfin, le bien et le mal, c'est.
Non, mais
plus
vu
que...
le sujet, on est quand même quelque chose, vous l'avez dit en ouverture, qui doit forcément faire miroir avec aujourd'hui. Oui, donc, est-ce qu'on peut prendre des archétypes, des traditions, des fonctionnements cinématographiques de cette sorte, Thierry Chaise ?
Moi, je pense que oui, parce qu'il est. C'est lui aussi, c'est son cinéma depuis un moment aussi à Spielberg. Et quand on parle d'une interprétation qui en fait beaucoup, moi, je trouve que Meryl Streep en fait moins là quand elle joue Margaret Thatcher, par exemple. Moi, c'est au moins. C'est-à-dire que c'est... Au contraire, je la trouve plus en retenue que beaucoup de films qu'elle a fait précédemment. Elle est plus tenue par rapport à ça.
Il faudrait qu'on lui donne un rôle, quoi.
Oui,
par contre, c'est vrai que la scène où en fait elle est au téléphone, ça c'est génial. Il y a une scène où en fait elle doit prendre une décision et tous les mecs sont dans des pièces avec des téléphones. Donc il y a un montage avec qu'est-ce qu'elle va dire. Et là, on a une caméra en plongée sur elle. Ça, c'est assez merveilleux dans la mise en scène. Ça, c'est assez. Mais pour moi, ce sont des moments. Mais il n'y a pas d'émotion. Je reconnais Spielberg, sans doute une virtuosité qu'il a eue par ailleurs. Et j'aime pas tous ses films non plus, parce que justement, il y a quand même une facture d'un grand simplisme parfois. Et ça me gêne. Le bien, le mal, par exemple, moi j'en ai marre d'entendre ces valeurs.
Ça existe, hein, pourtant.
Non. Je crois qu'il faudrait penser.
Ah, alors là, il va falloir que vous nous le démontriez maintenant.
Non, mais pour dire, peut-être que c'est un peu
le
pendant.
Bien et le mal, ouais. Mal, ça existe.
Oui, mais on en parlera plus.
D'accord.
Non, mais c'est un peu le pendant féminin de Lincoln. C'est-à-dire que tout tourne autour d'une décision.
C'est horrible, Lincoln.
J'adore,
horrible.
Je trouve ça absolument magnifique.
Ah, ça vous émeut.
Mais je vais vous laisser.
Et sur ce.
Non, non, mais ça peut être très, très mauvais. Spielberg et Lincoln, c'était épouvantable.
Moi, je trouve ça absolument magnifique. Mais voilà. C'est voilà, cette discussion permanente le avec les cinéastes classiques hollywoodiens qui m'émeut énormément parce que plus personne ne fait ça. Non, mais
justement, dans Lincoln, pour le coup, le bien et le mal, on voyait bien que pour faire le bien, il fallait faire du mal. Donc, vous voyez bien que c'est pas le bien et le mal non plus.
Oui, oui, bien sûr. Mais là, il y a un côté, encore une fois, je dis populisme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un genre en soi. Et pour moi, Capra est un cinéaste populiste. On en avait déjà parlé ici à la dispute. Et
c'est pas la même époque, Muriel.
Mais oui, non, mais vraiment.
Mais c'est tout. Enfin, je sais pas. C'est la question du peuple, de la démocratie, de la presse. Et on peut les. Enfin,
non. Il me semble que vous croyez vraiment qu'on peut les traiter aujourd'hui comme dans les années 30.
J'ai vu le film. Je suis convaincue. C'est-à-dire que pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais bon. Chacun son avis. Pentagon Papers.
D'accord. Alors, on n'a pas un jingle, Boris Pinault, mais on pourra en avoir un pour la minute Christophe Despaux, qui est un fervent Facebooker qui nous écrit régulièrement concernant les films. Alors, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, si vous voulez intervenir par Facebook ou par Twitter, vous pouvez le faire. Alors, Boris, que nous dit Christophe Despaux sur Pentagon Papers?
Eh bien, il nous dit que le film semble de prime abord un film routinier mené avec un allant factice qui emprunte tous les poncifs du film hollywoodien sur la presse. Sa vraie nature est celle d'un brouet édifiant où surnagent quelques pattes alphabets. La fiction paranoïaque et défiante des années 70 a bien mal achevé sa mue avec ce divertissement majoritaire que porte sur les fonds baptismaux un opportunisme des plus vils.
Oula ! Même Corinne Rondeau ne va pas jusque-là. Mais pas loin.
Ah non, sûrement pas, non. Pas avec ces mots-là.
Non, mais sur le fond,
je
Corinne.
Laisse à l'auditeur. Corinne. Enfin, moi, vous savez, je travaille. Hein.
Sur le...
Non, mais c'est mon job, Julien.
Non, bien sûr.
Mais... C'est pour qu'il m'écrive, en fait.
Ah d'accord, bon, ben, ça, vous réglerez vos affaires avec lui plus tard. Donc, après cette charge, la parole à la défense, une dernière fois, Muriel Joudé.
Non, mais ce qui aurait été opportuniste, puisque Christophe Despaux dit ça, c'est de se référer au Nouvel Hollywood, parce que le film est un prequel aux Hommes du Président, notamment la dernière scène fait référence aux Hommes du Président, et c'est ça qui est opportuniste, c'est de tous les cinéastes qui ne pensent qu'au Nouvel Hollywood, et Spielberg saute une décennie, et, enfin même plusieurs décennies, et s'en réfère au cinéma classique hollywoodien. Donc il y a un côté un peu suranné, mais qui peut aussi ne pas plaire, hein, tout est subjectif au final, mais pour moi, c'est pas du tout opportuniste, au contraire.
Je suis sur la même ligne exactement. Je trouve que pour exactement les mêmes raisons. Non, c'est pas un film opportuniste, mais c'est un film qu'il a fait, je pense, parce que Trump est au pouvoir et parce que tout ce qui se passe aujourd'hui.
Ça, c'est Corinne Rondeau.
Ça, c'est pas opportuniste.
Il a fait le film avant l'élection.
Et non, parce que ça lui fait pas des entrées. Ça lui fait pas d'entrée de faire ça, puisque la majorité a voté Trump.
Bah non, je vous rappelle que la majorité a voté Hillary Clinton.
En tout cas, il y a 50%. Mettons 48% qui n'iront pas.
Mais arrêtez de défendre Spielberg comme ça, quoi. Il n'a pas besoin de nous, en plus.
Mais je défends. Pour moi,
on a besoin de lui.
Voilà, c'est qu'il est toujours là. Et
pas sûr.
Les cinéastes qui ont été aussi prolifiques et qui sont toujours là et qui ont autant envie de faire du cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Voilà et tout.
Ça, sur l'envie de faire du cinéma, oui. Mais il devrait parfois se retenir. Ah bon. Pentagon Papers de Steven Spielberg est sorti, lui, depuis le 24 janvier sur les écrans.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Toujours en direct du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, le troisième sujet de cette dispute cinéma ce soir, c'est un film français tout de même. C'est Gaspard va au mariage, alors il faut dire Gaspard goes to the wedding, hein, puisque je traduis. C'est Anthony Cordier qui l'a réalisé, une comédie romantique singulière, on va en parler, à l'affiche de laquelle on retrouve Laetitia Doche, Marina Foïs, Christa Terré, Félix Moati, une distribution qui, moi, me donnait envie avant de voir le film, mais alors après.
Je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous venir avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard.
Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père?
Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi.
Je peux embrasser la mariée.
Voilà, c'est Laura.
Bonjour, il y a un caribou qui vient de naître, il a deux têtes. Tu veux le voir?
Ok, ouais.
C'est horrible.
T'es avec elle depuis longtemps?
Assez, ouais.
Tu te rends compte de la chance que t'as eue, quand même? Grandir dans un zoo.
Laura, Colline, ma sœur.
Salut.
Bonjour, mon fils.
Je me demandais si j'allais te revoir un jour.
Je suis là. Mais t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit.
Ah non, ça ne dérange pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc.
Bien, ça me fera un, t'inquiète pas.
Faut qu'on parle du mariage. C'est Peggy plus mariée. Une semaine de la noce, ça va nous coûter un max de fric, ça. Tu veux pas te marier, toi?
Moi? Mais qu'est-ce qu'il va faire, papa?
Je sais pas, mais...
Éloigne-toi! Je croyais que t'étais une jeune. Elle, c'est une pâquerette déguisée en piège à loup.
Laisse-la tranquille.
t'es fait pour le zoo et au lieu de ça tu gâches ta vie là.
Mais t'es où toi putain? Moi je suis là tous les jours.
Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres dans cette famille?
Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille.
Alors, le plus dur, c'est de trouver quelqu'un dans le monde qu'on aime plus que sa famille. Corinne oui. Rondeau, ça vous parle, cette phrase? Avec votre sœur Stéphanie en face de vous, ce soir?
Non, non, non. Bah non.
La famille, ça compte ouais. Hein, chez les Rondeau. Hein. Bon, on va pas parler.
C'est dommage que dans la bande-annonce, ils aient mis cette phrase.
C'est bizarre, oui, ça la découvre assez... en même temps que vous.
Et la bande-annonce est assez mauvaise, mais bah, bon, comme beaucoup.
Comme chaque fois.
Moi, j'ai plutôt aimé ce film, d'abord parce que je l'ai trouvé... Il a une fraîcheur que les autres films français n'ont pas. Je trouve qu'ils sont assez nocifs, hystériques, voulant toujours être à des endroits et à cristalliser un certain type de discours ou d'action. Et j'ai trouvé que celui-ci était fait tout en tissage. Et ça, je trouve que c'est une vraie valeur à ce film. Parce que justement, il ne s'appesantit jamais. C'est la raison pour laquelle il a une certaine facture dans les jeux d'acteurs un peu anglo-saxons, où ça passe, où ça avance sans arrêt, où on ne s'arrête pas, où les lourdeurs, s'il y en a, elles passent. Et en même temps, quand on est dans la famille, c'est jamais simple. Donc j'ai bien aimé aussi cette espèce de manière de nous faire entrer dans la famille par une porte dérobée, qui est plutôt en fait une voie ferrée, puisque Laetitia Doche arrive avec un sac à dos, puis elle va boire un café, puis elle s'attache avec des menottes à une voie ferrée. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce film?
Elle suit un groupe.
Elle suit un groupe auquel elle n'appartient pas, et dans le train qu'elle va prendre ensuite, puisqu'elle s'évanouit, puis quelqu'un va la secourir, c'est le fameux Gaspard. Et puis là-dessus commence, venez avec moi, j'ai besoin de vous, parce que je veux un mariage. Voilà, un mariage de mon père, et ça commence comme ça. Et donc cette manière de rentrer dans une histoire qui est une sorte de rencontre et d'accident, j'ai plutôt apprécié. Et ensuite, ce dépaysement qui renvoie à tout un conte réaliste qui va se jouer à l'intérieur de la famille, puisque la famille, c'est toujours un conte, a toujours des histoires abracadabrantes. Et là, ça se passe en plus dans un zoo. Et dont
un drôle de zoo en pleine campagne.
Oui, mais comme il peut y en avoir, enfin, nous pouvons vous en parler puisque nous sommes en famille. Il y en a en province, des petits et des grands zoos où on a l'impression qu'on est un peu chez soi, quoi.
C'était le cas là.
C'était le cas d'ailleurs, je ne sais pas.
Vous regardez votre sœur, d'accord, vous avez des souvenirs communs.
En disant, tu te rappelles.
Tu te rappelles. Merci Jean, c'est pas comme ça par exemple. Muriel Joudet.
Oui, non, c'est
Gaspard
ça...
va au mariage.
Oui, ça bosse moyen. C'est ce qui est un peu gênant dans le film, c'est qu'on ne sait pas. Ils habitent dans une grande demeure. Enfin, ils ont l'air d'être, très riches. Ils travaillent mollement.
C'est Décati, la grande demeure. Vous avez remarqué quand même.
Pardon.
Elle tombe en ruine, la grande
demeure.
Oui,
enfin, elle est cool entre guillemets. Enfin, c'est ça qui est assez gênant dans le film, c'est qu'on a l'impression de voir un film Sundance d'il y a 10 ans, genre les Little Miss Sunshine, les Bergman. Ou un fan de Wes Anderson qui essaye de faire un film à la manière du cinéaste. Donc c'est très désagréable parce que c'est très dépassé et parce que c'est beaucoup moins bien que les originaux. J'en veux pour preuve cette famille qui est à la fois drôle, excentrique, géniale, névrosée, comme le sont les familles chez Wes Anderson ou comme le sont les familles dans les films Sundance. Et donc il y a le père qui se met à poil devant ses enfants, la sœur et le frère qui sont amoureux. Une des filles qui se prend pour un ours. Bref, c'est vraiment...
Ça, le dernier quoi, c'est plus intéressant. Le reste, ça vous perturbe, ça vous choque, Marielle Jaudet?
C'est pas que ça me choque, c'est que c'est n'importe quoi. C'est totalement arbitraire. On n'y croit pas du tout. C'est-à-dire que je veux bien croire avaler n'importe quelle idée.
Oui, mais... vous aimez Spielberg, c'est la,
oui, voilà,
c'est la preuve.
Mais la question, c'est que j'ai l'impression de voir un bout à bout d'idées amusantes, rigolotes, excentriques, mais sans jamais qu'Anthony Cordier se pose la question du récit et de l'histoire. Je ne sais pas ce qu'il me raconte.
Ah, c'est
je vois juste vraiment étrange, une suite de petites idées qu'il aurait notées sur son carnet. Et pour moi, il n'y a pas autre chose que ça, malgré le casting qui est très bien senti. Et chaque acteur fait ce qu'il peut dans ce film qui, pour moi, est une sorte d'aberration où rien n'est crédible, où tout fonctionne à l'énergie d'un pur arbitraire de cinéaste qui a les moyens de faire son film. Mais je, pour moi, c'est une catastrophe totale. Et surtout, il y a vraiment 10 ans de... Le film a vraiment 10 ans de retard à mes yeux.
Bon, on est trois et très perplexes à vous écouter. C'est Thierry Chaise qui va prendre la parole sur Gaspard va au mariage.
J'ai complètement marché. C'est vraiment le contraire, mais peut-être presque pour les raisons, les mêmes raisons que vous dites. C'est-à-dire que je suis avec le personnage de Gaspard, interprété par Félix Moati. Je vais découvrir cette famille. Alors oui, cette famille est étrange. Oui, il y a des familles dysfonctionnelles dans le cinéma américain, mais il y en a aussi parfois dans le cinéma français. Et je trouve que celle-ci, elle arrive à être... Moi, elle m'a ému parce qu'elle n'est pas juste pittoresque. Parce qu'on est, on n'a pas juste... Une fois qu'on a dit qu'il y en a une qui veut se... qui a toujours une peau d'ours sur elle, il y a le frère un peu qui essaie de rester sage, et puis il y a celui qui revient, mais qui n'a aucune envie de revenir. Ça, c'est la base. Et à partir de là, il va quand même se passer des choses entre eux. Il va se passer des moments... parfois avec des dialogues, parfois avec des silences, qui font que d'un seul coup, il y a quelque chose de construit. En plus, Henri Cordier, c'est l'argent pour le faire, je pense qu'il a mis 7 ou 8 ans pour y arriver. C'est son troisième long métrage seulement. Moi, j'avais adoré Douche froide, qui était le premier film qu'il ait fait. Happy Few ensuite. Donc, c'est pas un cinéaste qui est reconnu justement par le petit monde du cinéma français. C'est pas quelqu'un qui gagne 50 000 prix. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps mis en avant par la critique. Et je trouve qu'il y a quelque chose, déjà dans Douche froide, ensuite à Pichou, sur justement le groupe, la famille, ces rapports-là, cette difficulté de l'intimité aussi par moment. Alors oui, les personnages sont extrêmes, mais finalement, malgré cette extrémité, on arrive à rentrer avec eux. Et je me dis pas, ah tiens, il va faire une pause. Il va nous faire rire. Contre, quand on rit avec, quand on est ému avec, et je trouve la qualité d'interprétation formidable. Moi, je préfère Laetitia Doche là que dans Jeune Femme, par exemple. Parce que là, je la sens cadrée, elle joue avec les autres, et d'un seul coup, toute sa dimension apparaît. Je trouve Guillaume Wix vraiment très fort dans le côté, arriver à faire vivre un personnage plus normal au milieu de cette folie. Christa Terré, qui est quelqu'un qu'on voit rarement, je trouve qu'elle a une grâce absolue, et là aussi, on croit à tout ce qui se passe. Et moi, alors, j'ai vécu là, c'est que j'ai cru à tout. J'étais content d'être avec eux. J'étais triste de les quitter.
Alors, oui, parce que c'est. Je vais encore sous le choc des propos de Muriel Bellé contre ce film.
Mais le père qui se met tout nu devant ses enfants, c'est pas possible quand même. Ah oui,
ouais. C'est Woody Allen.
Regardez les générations que ça implique et. Lisez quelques ouvrages sociologiques sur la suite des années 70 et peut-être ça vous étonnera un peu moins. Du coup, non, les familles dysfonctionnelles, ça n'a pas été inventé à Sundance, hein, dans le cinéma. Vous savez, je n'ai pas regardé À nos amours, un exemple comme ça, très simple, de famille dysfonctionnelle. Oui, mais non, mais le cinéma en est plein et c'est pas. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de Sundance dans ce film-là. D'autant que cette maison est quand même très décatie. Le décor, il est assez intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans le cinéma français, mais dans le cinéma tout court. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il est différent sans justement surligner sa différence comme font beaucoup de petits malins ou petites malines du cinéma français notamment, mais beaucoup aussi américains, les Sundance d'aujourd'hui, qui vraiment nous disent « Ah, vous avez vu comme je fais des choses originales ?» je trouve qu'il l'est vraiment, Anthony Cordier, et que, alors notamment, la façon qu'il a de filmer et de diriger les comédiennes, et particulièrement... Moi, c'est la première fois que je vois Laetitia Doche que j'apprécie de bout en bout, alors que souvent, il y a des choses qui m'agacent dans son jeu, que ce soit au cinéma ou en théâtre. On en a parlé récemment. Bon, Marina Foïs, pour moi, elle est toujours au même niveau d'excellence, mais Christa Terré, c'est presque une révélation de la voir dans ce film-là. Je trouve qu'elle amène une étrangeté, une sensualité, une vraie différence.
J'aime beaucoup LOL, j'aime beaucoup Christa Terré. Pour moi, c'est une... C'était dommage de ne pas la voir. Elle a un peu disparu entre LOL et ce film. Enfin, elle a fait plusieurs secondes.
Il faut que je voie LOL, alors.
C'est super, LOL.
C'est pareil, oui. Bon, je le note.
J'avais l'âge de l'héroïne à l'époque, donc c'est un film vraiment générationnel. Mais c'est vrai qu'elle apporte... Encore une fois, le casting est très bon. Félix Moati, qui était aussi dans LOL, est très, très bon. Ils sont tous très bons. J'ai un peu du mal avec Laetitia Doche, qui, pour moi, devrait être encore plus cadrée que ça, à un moment où, là, pour moi, ça ne fonctionne pas trop. Mais donc, il y a un pur plaisir d'acteur, mais qui s'arrête à ça.
Mais vous disiez une collection de bonnes idées ou de petites idées sur un carnet. Moi, je vois un vrai arc narratif dans le film, ce qui n'est pas non plus très fréquent dans ce type de film qui propose un assez grand nombre de personnages, tous principaux. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Il y a quand même il y a un arc, il y a une progression, il y a une dramaturgie. Enfin, il y a des moments forts, des moments intimes, des moments de crise, des moments de réunion. Enfin, pour moi, il y a une palette qui est quand même extrêmement, extrêmement riche. Corinne Rondeau.
Ah oui, je parlais tout à l'heure de tissage. Vraiment, c'est cette manière de tisser les rapports en les montrant sans le dire non plus. Sur les questions de tatouage, par exemple. Enfin, on voit bien qu'il y a des tas de choses, de petits détails qui apparaissent. Donc moi, j'ai trouvé le film d'abord modeste dans la mesure où il n'en fait pas des caisses.
Ah ouais, ça j'apprécie.
C'est un film aussi qui est aussi léger que ce dont il veut traiter, c'est-à-dire la fin d'une vie d'enfant, mais aussi la fin. Enfin, il faut que je peux le dire. La fin. Enfin, les problèmes que le zoo peut rencontrer. Enfin, il y a autant de. Alors là, c'est pour le coup, c'est un vrai mélodrame qui est super efficace, quoi. Et moi, je trouve que moi, Laetitia Dosch, je l'aime pas. Mais là, je la trouve géniale. Je la trouve géniale. Elle est juste. Et même sur cette manière de réagir naïvement et spontanément à des réactions du Gaspard, enfin, avec Félix Moati. Mais elle est juste, elle est super juste. Les scènes qui pourraient être des scènes d'érotisme. Ils sont habillés, mais c'est super génial. Enfin,
tout nu dans le film quand même.
Mais non,
vous avez arrêté la nudité, Muriel.
Il va falloir aller voir.
Je n'aime pas les nudistes.
C'est pas possible, quoi. Ils sont pas tout nus. C'est pas
tout le monde est tout nu.
Mais il a toujours fait ça.
Ils sont tous. Non, mais c'est pas grave. C'est juste.
Écoutez, apparemment, ça m'a pas. Ouais, ça m'a pas marqué.
Mais si peu, il déshabille une actrice, quoi. Il y a un. Voilà.
Oui, alors là,
les acteurs aussi.
Je ne juge pas le constat.
Les acteurs aussi.
Oui, les acteurs aussi. Je suis d'accord.
Il fait son cinéma depuis toujours. C'est le. Dans Douche froide, c'était le cas, et dans Happy Few aussi.
Ouais, bon, enfin, écoutez, le film ne repose pas sur le fait qu'il pendant 3 minutes 20 dans le film, on voit un type dans un aquarium et l'autre avec sa sœur dans un bain. Il faut arrêter, quoi.
non, ça mais qui fait l'arbitraire du film.
Non, c'est pas un arbitraire du tout. C'est une manière de dire qu'on vit comme ça.
C'est un frère et une sœur qui prennent un bain.
Alors, en
ils
même
sont
temps,
amoureux. On dit, enfin, c'est
pour moi, ça non, me... mais écoutez, le pot d'âne, il y a de l'inceste. Voilà, c'est pas un drame non plus, quoi.
Il y a moins de nudité.
Oui,
dans
il y a plus de poils. Mais là aussi, il y a du poil. Et moi, j'aime bien cette question de poils, quoi.
Mais moi aussi, j'adore.
J'aime bien. Non, mais je veux dire, pourquoi on serait toujours obligé de nous montrer des gens qui sont cadrés et fous à la fois? Là, ça part pas en sucette. En même temps, c'est complètement émaillé de, je dirais, de vitalité, mais comme je dirais.
On ne sait pas où ça va. C'est ça qui est bien. C'est pas un film prévisible autant chez votre ami Spielberg. On voit très bien où il va dès le départ.
Exactement.
À chaque film, il y a une surprise de chaque scène.
C'est comme la remarque Marina Foïs que je vous renvoie d'ailleurs, Muriel, quand Laetitia Dosch dit, oh mais quand même, elle aime son frère, ça va pas.
C'est pas normal.
C'est pas normal. Et Marina Foïs, je lui réponds, bah, écoutez, ça va. Attendez, je l'ai noté.
Si vous arrivez à vous relire pour une fois.
Ça va pas menacer l'espèce. Moi, je trouve ça génial. Bon,
mais
voilà.
La question n'est pas celle du. Le dysfonctionnement ne me gêne pas. Je ne suis pas non plus la reine
même,
de.
On va creuser ce point sur les prochains films.
Je trouve pas la reine,
donné,
mais quand même, là.
Je peux tout accepter au cinéma, mais là, tout est donné. Voilà, on doit tout gober, alors que le cinéaste ne fait aucun effort de mise en scène, de récit, de narration pour nous faire gober tout ça. C'est le seul problème. Après, que tout le monde soit tout nu, il n'y a aucun problème avec ça.
Ils vont croire que c'est un film nudiste. Alors qu'il fait 1h45 ou 1h50, s'il y a 3 minutes de plan de gens nus, c'est quand même le bout du monde. Vous êtes... Ah bon, non mais on va creuser le sujet. On savait que vous aviez peur d'avoir peur au cinéma, maintenant vous avez peur de voir des gens tout nus.
Oui, moi je veux voir que des films classiques américains.
Ouais, des années 30, voilà. Réalisés par Steven Spielberg, voilà. Pour parler d'aujourd'hui. D'accord, j'ai bien résumé, c'est comme ça que ça se passe. Bon, on aime ce film, oui. On recommande Thierry Chaise.
Et puis, mais moi je vous comprends l'allusion à Noah Baumbach en effet, mais moi, pour moi les Bergman se séparent, c'était il y a longtemps et c'est quasiment un de ses meilleurs, donc c'est pas non plus...
C'était pas aussi bien.
Et mais là, moi, non mais vraiment, je trouve. Et en plus,
dès que c'est américain, mais on les joue des
chez cinéaste, voilà. Je trouve qu'entre justement, il y a entre Douche froide, Happy Few et celui-là, il y a vraiment une progression, et c'est le film où la mise en scène, je trouve justement, est la plus réussie de tout, de tout ce qu'il a fait.
Et le père est génial.
Ah, qui était dans Alabama Monroe. Très beau.
Attention, il est nu aussi. Des fois.
Non, mais les acteurs sont très bons. Ah, ils essayent de sauver ce qu'ils peuvent.
Mais non, mais ils sont dirigés. Ils sont quand même dirigés, les acteurs.
Ce film est formidable.
Ce film est formidable, Muriel Jodet. À 3 contre 1. C'est comme ça que ça se passe de la dispute.
Oh, ça m'arrive d'être toute seule. Hein,
donc... Oui, bah oui, c'est pas grave. Mais vous avez raison quand même, même quand vous êtes seule, Corinne.
Non.
Mais... Gaspard va au mariage, qu'on vous recommande à 75%, mais très très chaleureusement. Hein. Allez remplir les salles d'Anthony Cordier pour qu'il puisse avoir enfin les moyens, parce que vous êtes gonflé de dire qu'il a des moyens pour faire son cinéma.
Non, pardon, j'ai été vache sur ce coup-là. C'est le seul point où j'ai eu tort.
On va tout
C'est beau, c'est le seul point où j'ai eu tort. C'est la phrase finale de Muriel Jodet pour cette émission. Et avant de conclure l'émission, justement, le jeu de la dispute avec Camille André qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir avant de nous donner la réponse. Camille.
Dans quel film confrontant les cultures occidentales et nippones, David Bowie incarne-t-il un prisonnier anglais ? Et c'était Furio.
On fait ce soir, Corinne Rondeau se blesse. C'est une émission dangereuse. Des invitations pour une visite guidée de l'exposition de Béat et Serge Karsfeld, Les combats de la mémoire, jeudi 8 février à 19h au Mémorial de la Shoah à Paris. Quelle est la question, Camille ?
Dans quel pays d'Amérique du Sud et sous quel nom Klaus Barbie a-t-il fui la justice avant d'être retrouvé par les époux Klarsfeld ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Bon, France, c'est pas Culture tout à fait le bon jingle, c'est parti. Non, allez, on revient. Hop, générique, fin de la dispute. Personne n'a rien entendu. Hein. Pour embobiner, c'est bon, ça marche comme ça. C'est le bel air, qu'est-ce que vous voulez. Les informations, vous les retrouvez sur franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter ces émissions, également les podcaster. Rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Philippe Chevillé, René Solis, Jean-Christophe Brianchon. À notre affiche, Macbeth de William Shakespeare, mise en scène, scénographie Stéphane Brunschweig, en ce moment à l'Odéon. France Fantôme, texte et mise en scène de Tiphaine Raffier. C'est en tournée en ce moment au théâtre Gérard Philippe. Et puis La Maison de Julien Gaillard, mise en scène et scénographie de Simon Delétang, en ce moment à l'affiche du théâtre de la Colline.